Débutons notre travail par une présentation du contexte global. Les années 1930 font apparaître un contexte de grande tension dans lequel la Seconde Guerre mondiale va trouver ses causes, l'instabilité de la paix du traité de Versailles de 1919, la crise économique de 1929, la faiblesse de la Société des Nations, la présence de régimes totalitaires et autoritaires en Europe et en Asie, ainsi que l'inaction occidentale face à leurs provocations construisent ce contexte tendu. Déclenché le 1er septembre 1939 par l'invasion conjointe de la Pologne par Staline et Hitler, la Seconde Guerre mondiale s'étend en France avec le déclenchement de la bataille de France entre le 10 mai 1940 et le 22 juin 1940.
Confrontée à la violence et la redoutable efficacité de la technique de guerre éclair, la France, mal préparée, ne disposant pas assez d'avions et de chars ou d'armements modernes, est vite submergée. Les troupes allemandes, contournant la ligne Maginot, entrent par le nord sur le territoire français. Le 14 juin, la frontière est franchie à Sedan. Les civils fuient devant l'avancée des troupes de l'Axe, c'est l'exode. Paris tombe sans combattre le 14 juin 1940. La Troisième République va être enterrée dans un semblant de légalité. Le 16 juin 1940, Pétain devient président du Conseil. L'armistice est signé le 22 juin à Rétonde. La France est coupée en deux par la ligne de démarcation. De Gaulle, quelques jours avant, le 18 juin, a appelé de Londres à poursuivre le combat. Le 9 et le 10 juillet, la Chambre des députés et le Sénat valident la révision des lois constitutionnelles déléguant ce pouvoir à Pétain. Les actes constitutionnels sont promulgués le 11 juillet. C'est le début du régime de Vichy.
Ce régime est défini par trois éléments. C'est un régime autoritaire. Les libertés, les syndicats, les partis politiques et les chambres parlementaires sont suspendus. Pétain concentre tous les pouvoirs. Sa figure est valorisée par une intense propagande et un fort culte de la personnalité. C'est un régime de collaboration. Le 24 octobre 1940 à Montoire, Pétain rencontre Hitler et annonce quelques jours plus tard installer la France sur le chemin de la collaboration. Les produits agricoles, industriels, les jeunes travailleurs sont orientés vers l'Allemagne, y compris vers son armée. C'est le STO, ou Service de Travail Obligatoire, créé par Pierre Laval en 1943. C'est un régime antisémite. Le 18 octobre 1940, Pétain publie le statut des Juifs, loi d'exclusion de ce qui est appelé la race juive. L'étoile jaune leur sera bientôt imposée, le fichage, les arrestations, les rafles et les déportations viendront ensuite, sans que l'Allemagne nazie n'ait exigé quoi que ce soit des autorités françaises. 75 721 Juifs ont été déportés vers des centres de mise à mort, soit 20%, dont 42 000 pour la seule année 1942. 5 300 juifs sont escapés de la déportation.
Commençons avec un point sur la situation de notre territoire, la Bresse bourguignonne. En 1940, la Bresse se situe en zone libre sous l'autorité du régime de Vichy. Cependant, après le débarquement en Afrique du Nord, en novembre 1942, la ligne de démarcation est franchie par l'occupant. La Bresse est alors occupée. Les soldats allemands sont présents dans les villes de Bresse, notamment Branges, à proximité de Louan. Les conditions de vie sont difficiles, marquées par les pénuries, les rationnements, les restrictions, les couvre-feux, la limitation des déplacements, les contrôles incessants, les arrestations et la violence des représailles alors que les premiers actes de résistance apparaissent. La Bresse développe une particularité, celle d'être un des rares maquis de plaine. Situé entre le Jura, terre de plateau et de montagne marquée par une présence forte de maquis et la vallée de la Saône, axe majeur de transport et de circulation. En effet, d'importantes lignes de chemin de fer parcourent le territoire entre Paris et Marseille, entre Paris et l'Italie, ou encore entre Paris, Dijon, Strasbourg et l'Allemagne. La Bresse est aussi proche de Lyon, siège important de la Gestapo dirigée par Klaus Barbie. Plusieurs groupes de résistants opèrent en Bresse, des sabotages de chemins de fer, des attaques de convois allemands, des aides aux personnes traquées, la diffusion de messages et d'informations. Henri Vincent, Marcel Dandelot, Paul Buatois, Henri Boulet, Henri Coulon, Gaston Fézy, Claude Forêt, Alfred Gross, Louis Richard ou encore Robert Fichet sont des exemples de ces résistants bressans. Nous retrouvons les différentes formes de la résistance en Bresse. La résistance intérieure armée, la résistance civile et la résistance par l'information.
Venons-en à notre sujet particulier, celui de cette famille de juste parmi les nations, les Plancoulen, habitant à Saint-Germain-du-Bois, la commune de notre collège. Marcel-Antoine Plancoulen, né le 29 juin 1903 à Lyon, fils d'Eugène Plancoulen et Eugène Rebillard, est marié à Marie-Jeanne Beugnon, née le 18 avril 1911 à Épervant, fille de Pierre Beugnon et Jeanne Tétu. Marcel et Marie-Jeanne s'installent à Saint-Germain-du-Bois et tiennent une quincaillerie sur la place du marché. Commerçants ordinaires, ils ont pourtant fait un choix courageux et héroïque, celui d'accueillir un jeune enfant juif, Édouard Luntz. Mais qui était ce jeune garçon ?
Né le 8 août 1931 à la Baule-Escoublac en Loire-Atlantique, il est le fils d'Olga Luntz. Le jour de la grande rafle du 16 juillet 1942, la rafle du Veldiv, Édouard Luntz vit à Paris, dans le 16e arrondissement, avec sa mère Olga et sa grand-mère Fanny. Le concierge est venu sonner à la porte pour les prévenir que la police française arrêtait les juifs. Ils ont alors pu s'échapper par l'escalier de service et se réfugier au dernier étage dans l'appartement de Madame Mauduit. Ils y sont restés cachés plusieurs jours. Son grand-oncle et sa grande-tante, Gustave et Ernestine, sont arrêtés et déportés à Auschwitz le 24 juillet 1942. Ils n'en reviendront pas. Edward Lund s'est ensuite caché chez son instituteur, M. Calflech. Il sera ensuite inscrit dans un internat de jésuites dans la commune de Meaux ou de Melun. On le fait passer pour catholique. Edward Lund s'est alors envoyé en province pour le protéger. Sa mère et sa grand-mère restent cachés à Paris. Il est alors confié à un fermier en Saône-et-Loire à Sagy. Le fermier qui l'accueille décide de lui confier la garde des vaches. Petit parisien, il laisse s'échapper les animaux. Le fermier le place alors dans le premier bus, ne voulant pas nourrir une bouche en plus.
C'est ainsi que lors d'une chaude journée d'été 1943, le voilà déposé par le bus sur la place de Saint-Germain-du-Bois. Marcel Plancoulen l'aperçoit. Adjoint au maire, Marcel l'accueille d'abord pour une nuit. Il restera 2 ans. Jean Plancoulen, le fils unique de Marcel et Marie-Jeanne, est content de rencontrer un frère. Jean aime parcourir la campagne, les bois, se baigner dans les étangs. Édouard est un grand lecteur, le voisin de la quincaillerie, est libraire et imprimeur. Une chance pour Édouard. Édouard fait sa rentrée à l'école communale. Il obtient d'ailleurs les meilleures notes. Il est même premier au cours de catéchisme. Notons que les Plancoulen ont aussi libéré leur grenier pour qu'il serve de refuge pour la famille Veil, juif alsacien. Édouard accueille avec une joie communicative l'arrivée des troupes américaines et françaises de la libération, dans l'espoir de retrouver sa famille. Il reste encore quelques mois chez les Plancoulen et retrouve ensuite les siens. Parlant déjà de cinéma enfant, il fera carrière comme scénariste et metteur en scène, conservant des liens avec la famille Plancoulen. En 2024, à l'occasion des 80 ans de la libération de Saint-Germain-du-Bois, les élèves de notre collège ont créé une exposition sur la Seconde Guerre mondiale et la résistance en Bresse. Avec l'aide de Michel Debost et de la commune de Saint-Germain-du-Bois, ils ont aussi écrit le texte de la plaque commémorative en l'honneur de Marcel et Marie-Jeanne Plancoulen, en la présence des enfants et petits-enfants. C'est de cet esprit de résistance, de courage et de fraternité dont il faut s'inspirer aujourd'hui.